C'est l'heure de la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi, mais d'abord les titres. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a officiellement lancé cette semaine les travaux de réflexion devant aboutir à la mise en place d'un fonds de garantie des dépôts en RDC. Objectif poursuivi, assurer la sécurité des déposants et la stabilité du système financier. Le gouvernement devrait plutôt alléger la fiscalité à laquelle les banques commerciales sont soumises. Cela les aiderait à augmenter leur capacité. C'est à ce prix-là qu'elles pourraient envisager une baisse du taux débiteur qu'elles appliquent sur leurs clients. L'association congolaise des banques répondait ainsi au ministre des Finances qui leur demandait de suivre le mouvement de la baisse du taux directeur de la Banque centrale du Congo. Et puis les opérateurs économiques du Nord Kivu déplorent l'insécurité et le rançonnement des conducteurs sur l'axe Goma Rutshuru Butembo. Un chauffeur des établissements Mbinza a même été tué dimanche dernier. Un invité pour commenter l'actualité économique de la semaine, il s'appelle Monsieur Flory Botamba, il est avec nous au studio. Monsieur Flory, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour.
Et devant le micro, pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de la semaine, Agathe Ponaïlema et Daniel Tambizoni, nous vous souhaitons la bienvenue à votre magazine.
Panorama Économique, le dossier.
Bonjour. Le gouvernement, par le biais de ministres délégués aux finances, avait demandé aux banques commerciales de baisser le taux d'intérêt qu'elles appliquent à leurs clients.
Et la réponse de l'association congolaise des banques, le gouvernement ferait mieux de revoir sa politique fiscale à l'endroit des banques commerciales, ce qui leur permettrait d'augmenter leur capacité et ainsi de réduire les taux d'intérêt qu'elles pratiquent actuellement.
Les banques fonctionnent en dollars à 85%. Du portefeuille et le dollar n'a lui subi aucune baisse de taux d'intérêt de la part provenant de l'action gouvernementale. Le dollar est levé sur l'épargne publique pour lequel les banques doivent payer des intérêts, les banques doivent sécuriser ces encaisses. Vous savez, vous voyez autour des banques des très grosses infrastructures de sécurité, des gardiens, des policiers. Les banques ont des coûts d'exploitation qu'elles doivent assurer, des coûts de télécommunication pour entretenir le réseau à travers le pays. Et de l'autre côté, le gouvernement n'aide pas beaucoup les banques. Les banques ne sont pas éligibles au code des investissements. Les banques payent des impôts parfois supérieurs à celles des autres secteurs de l'économie. Les banques ne peuvent pas déduire les provisions pour créances douteuses de leur base imposable. Donc ce sont autant de facteurs qui pèsent sur les charges d'exploitation des banques et on n'est pas en mesure de réduire la proportion des frais fixes dans le coût des taux d'intérêt de manière significative.
C'était donc là le président de l'association congolaise des banques. Rappelons que ces taux, jugés trop élevés par le ministre des Finances, se situent entre 24 et 25% pour les crédits en francs congolais et 15% pour les prêts en devises. Pour le patron des finances de la RDC, les banques doivent assouplir les conditions et devenir des véritables leviers de développement.
Et puisque nous parlons de banques, Agathe, nous allons rester dans ce secteur. Des travaux de réflexion sont lancés en vue de la mise en place d'un fonds de garantie des dépôts en RDC.
C'était mardi et c'était par le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ce projet devra à terme renforcer la confiance du public dans le système financier. À vrai dire, les études menées en 1997 sur la Banque centrale et le système financier national au Congo avaient révélé que l'environnement dans lequel évolue l'économie de la RDC ne présente pas suffisamment de garanties. Ainsi, presque 90% des épargnes se font en dehors des banques et 67% des Congolais préfèrent épargner à l'informel par manque de confiance dans les services financiers. Valentin Claude Ramazani Mwambo, président du comité de pilotage de ce processus, explique ici pourquoi il est important d'avoir un fonds de garantie des dépôts en RDC.
Vous le savez très bien, les derniers événements qui ont eu lieu avec les récentes crises financières, les restructurations bancaires qui en est suivie ainsi que les liquidations des banques, ont mis en exergue effectivement le fait que les systèmes financiers globalisés. Et ceci a justifié une réflexion sur la mise en place d'un système de garantie de dépôt en RDC. Et puisqu'effectivement, comme vous le savez, dans les cas de restructuration de banques, nous avons un choix à faire quand une banque est malade. Soit le redressement, soit l'euthanasie. L'euthanasie, c'est la liquidation. Donc, il a été recommandé aujourd'hui à toutes les autorités monétaires qu'il faudra mettre fin au dogme de l'immortalité bancaire qui empêche les bons ajustements et qui crée l'anémie dans les systèmes bancaires. C'est pour cela qu'effectivement, que la mise en place de systèmes clairs, efficaces, de protection des dépôts est nécessaire effectivement pour assurer les avoirs des déposants une fois qu'une banque est mise en liquidation, n'est-ce pas? Et après avoir assuré la protection des déposants par les remboursements rapides de leurs avoirs, ça contribue effectivement aussi à la stabilité du système financier, ça crée un climat de confiance aux déposants, au public, ça limite les effets de panique bancaire et effectivement ça contribue à la stabilité du système national.
Voilà, c'est le moment de retrouver dans ce studio de Radio Okapi notre invité, Monsieur Flory Botamba. Vous êtes chef de projet, monsieur. Peut-être avant de commencer les commentaires de sujet de cette émission, c'est quel projet que vous dirigez, Monsieur Flory?
Je dirige un projet dans le Bandundu qui s'appelle un projet RED pour la population et la nature. C'est un projet sur la réduction des émissions due à la déforestation et à la dégradation des forêts.
Cela dit, nous revenons au sujet du panorama économique. Dans ce dossier, il y a deux volets. D'abord, les banques commerciales qui répondent au gouvernement. Ils pensent que les charges d'exploitation sont encore jusque-là trop élevées. Le gardiennage, l'impôt qui étouffe un peu. Il y a beaucoup de charges d'exploitation. L'État ferait mieux de les assister en réduisant un peu ces impôts, cette fiscalité, avant qu'elle ne puisse réduire le taux d'intérêt que le gouvernement juge élevé. Votre analyse, votre commentaire?
Moi, je crois que dans cette situation, ils devront d'abord s'asseoir autour d'une table et chacun est en train de se positionner en mettant en exergue ses propres intérêts. C'est-à-dire que pour diminuer le taux d'intérêt, il faudrait que, quelque part, ils puissent avoir des garanties aussi de la part du gouvernement par rapport à certains impôts qu'ils sont en train de payer. Mais l'exemple que les responsables de l'association de banques donnait à propos de charges qu'il a...
Le gardiennage, la police...
Tout le monde là, quand on se lance dans cette affaire, on sait que ces charges-là devraient toujours en avoir. Donc, ce n'est pas une raison pour justifier justement les taux élevés. Si vous voulez que les gens puissent avoir confiance à la banque, que les gens puissent commencer à investir, parce qu'en fait, ce n'est pas le pays en tant que ou le gouvernement qui est le moteur de développement, c'est plutôt le privé qui investisse. Mais où est-ce qu'il trouve l'argent? C'est auprès des banques. Et lorsque le taux d'intérêt est assez élevé.
Et le temps de remboursement très court.
Voilà, ça ne motive pas les personnes à se lancer dans l'investissement.
Mais monsieur Botamba, les banquiers viennent faire du business, ils doivent rentrer dans leurs frais quand ils viennent investir.
Dans l'entretemps, la population se doit vivre.
Mais justement, pour les gens viennent faire des dépôts. Donc la banque ne travaille pas directement avec ses avoirs. Il y a les avoirs de ses clients. Donc il faudrait quand même y ait des incitations pour que des clients puissent venir à un nombre assez important et mettre des sommes importantes pour qu'on puisse justement faire fonctionner la banque.
Mais c'est là où ils estiment que l'État devrait arranger les conditions de telle sorte qu'ils aient les moyens de se déployer partout pour collecter plus d'épargne et mieux offrir des services financiers à la population.
Bon, justement, le déploiement ne dépend pas souvent de l'État, mais surtout au fait de l'intérêt des uns et des autres. Il y a des banques où vous ne trouverez qu'à Kinshasa une seule agence à Kinshasa. Tandis que si vous allez aujourd'hui dans certains, je ne vais pas citer des noms, mais il y a une banque qui est venue rapidement à Kinshasa et qui s'est déployée à l'intérieur du pays. Elle est toute nouvelle, mais s'est déployée rapidement. D'autres commencent à suivre son initiative. Donc, peut-être que c'est l'intérêt des uns et des autres, la vision du développement des uns et des autres et aussi la qualité des services à offrir. Parce que si on veut vraiment qu'on soit compétitif, je crois qu'on se déploierait un peu partout. Quand vous allez dans des pays étrangers, vous trouverez que les banques sont rendues banales. Donc on a banalisé l'aspect bancaire, chacun peut ouvrir un compte. Vous vous rendez à une certaine époque, vers les années 2000. Pour ouvrir un compte en banque, il vous fallait faire de la gymnastique, des sommes colossales, pour que vous puissiez ouvrir un compte seulement. Et il y a peu de temps, on commence à ouvrir le compte gratuitement. Sans donner un rond, on vous ouvrait un compte. Donc il y a quand même des avancées dans ces secteurs. Mais maintenant, ces avancées-là permettent d'avoir un nombre de clients, c'est important. Mais également, les clients vont regarder, avoir un autre regard. C'est justement comment je peux, moi, investir. Et si je dois investir, je dois aller chercher de l'argent quelque part. Les gens disent, les gens font ce que nous connaissons ici. Ils vont dans les petits quartiers, dans les petites boutiques, paquet au bois qui s'accarte, au bois qui ça. Et là, il n'y a pas de garantie. J'ai un exemple.
Avec tous les risques possibles.
Ben oui, parce qu'il y a un gars qui a pris la tangente avec l'argent de tout ce qui était là. Une nuit, il a tout emballé, il est parti. Le lendemain matin, les gens n'avaient rien. Donc, ça, ce sont les risques. Mais si les banques voient ce genre de choses, je crois qu'ils devraient s'ouvrir davantage et comprendre qu'il y a les intentions des communautés d'investir, de déposer leur argent dans les banques, mais aussi, ils doivent avoir une opportunité, lorsqu'ils ont besoin des crédits, d'aller vers ces banques et avoir ces crédits à un taux qui est abordable par rapport à leurs moyens.
Et le deuxième volet, rapidement, c'est ce fonds de garantie, effectivement, de dépôt. Lorsque vous allez auprès de banques déposer votre argent, il faut que vous soyez en mesure d'être remboursé au cas où la banque tombe en faillite. C'est ce qu'on est en train de chercher à mettre en place, un fonds de garantie.
Je crois que c'est très important. Je crois qu'il y a des exemples qui sont criants ici à Kinshasa, où des banques ont fait faillite et les déposants avaient des problèmes pour trouver leur dû. Donc, c'est tout à fait normal dans un pays normal. Je crois qu'ils doivent avoir cette garantie-là pour une banque. Et les banques sont affiliées à la Banque centrale.
Et donc, c'est tous ces dispositifs de l'État qui permettront aux banques, finalement, d'avoir un taux un peu plus acceptable.
Bon, ça c'est la banque qui dépose auprès de la Banque centrale. Donc, ils sont en train de mettre des moyens. Je crois que si on veut fonctionner normalement et qu'on veut être comme les autres et dans d'autres banques, et nos banques aussi soient bien considérées dans le monde entier, donc il faudrait que nous nous allions à la mode de gestion bancaire que nous trouvons dans n'importe quel pays. Alors moi, je pourrais mettre mon argent en toute sécurité et je peux aussi savoir que si je quitte le Congo, je peux peut-être avoir l'argent dans le succursale de cette banque dans un autre pays, comme certaines banques ici, vous les retrouvez dans plusieurs pays africains. Donc si vous vous déplacez là-bas, vous n'avez pas besoin d'avoir des cash. Si vous avez vos cartes de crédit, vous pouvez vous déplacer dans n'importe quel pays, vous payez
faire
vos achats, les restaurants, l'hôtel et tout ça. Donc vous n'avez pas besoin de vous promener avec des cash. Et aujourd'hui, par exemple, si je vous faisais un chèque, vous aurez des doutes pour l'accepter. Alors que c'est un mode d'achat ou d'utilisation de ces ressources justement bancaires. Donc dans d'autres pays, tout s'est fait par chèque. On ne peut pas transporter des cash. Et ça demande des efforts de part et d'autre, de la part du gouvernant comme de gouverner.
Dernier dossier de la semaine, les bruits de bottes et les investissements ne font jamais bon ménage, Agathe.
C'est ce que décrit les opérateurs économiques du Nord Kivu qui empruntent l'axe Goma-Rutshuru-Butembo, un axe long de 350 km. En effet, un chauffeur des établissements Mbinza Foam a été tué dimanche dernier à Kiwanja. Il transportait des produits brassicoles en provenance de Beni. Les transporteurs se plaignent du fait qu'ils doivent débourser en plus au moins $600 américains à de nombreuses barrières routières érigées sur la route par différents groupes armés. Pour ces opérateurs économiques, cette situation pourrait engendrer des conséquences graves dans la région. Et l'un d'eux s'est exprimé au micro de notre collègue à Goma, Moïse Mutunga-Lukube.
Il a été pris en otage par des assaillants qui ont demandé la rançon de $10,000 pour sa libération. Avant que les $10,000 ne soient venus, ils l'ont abattu. Nous déplorons l'insécurité qui se passe à l'Est et cela n'encourage pas les opérateurs économiques. Vous imaginez par exemple la Brasimba qui a investi $100 millions pour la construction d'une usine à bière dans la province et dont le transport doit se faire sur Goma et Bukavu. Temka, qui est le transporteur agréé, paye $600 par véhicule pour son passage, par chaque camion. Et vous voyez ce que ça coûte pour les opérateurs économiques. C'est vraiment décourageant parce que les autres opérateurs économiques n'auront pas le courage de venir investir dans la province aussi longtemps que la sécurité n'est pas rétablie. Nous demandons aux autorités, tant nationales que locales, ainsi que les Nations Unies, de pouvoir nous aider, nous les opérateurs, parce qu'à présent on ne sait plus passer sur la route retour.
Nous ne voulons pas faire la pub de l'insécurité, nous ne voulons pas non plus décourager les investisseurs, mais monsieur Flory, vous savez que les armes et l'argent ne font jamais bon ménage.
Bon, je crois que dans un temps de crise ou de guerre ou de ce genre de choses,
il est difficile d'attirer les investisseurs.
Il est très, très, très difficile de concilier les deux. Mais par contre, les communautés peuvent s'organiser en des luttes anti-fracasserie, en échangeant avec les autorités en place et mettre sur place ce genre de choses qu'on avait vu d'ailleurs durant les années 2000, où des projets avaient été mis sur pied pour faire des luttes contre les tracasseries diverses qu'on rencontre lors de nos passages routiers. Et ça, c'est très important. Mais de là à... Il y a des cas qui sont très très graves, comme les cas qu'on vient de dénoncer. Et je crois que lorsqu'il y a mort d'homme, ce n'est pas une joie. Et même si on rationnait quelqu'un, mais lorsqu'il y a mort d'homme, ça devient un cas très très difficile. Et les autorités de la place devraient s'y atteler pour apporter, pour garantir la sécurité de ces investisseurs locaux.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Et le reste de l'actualité de la semaine en bref, lundi, la Banque Centrale du Congo a inauguré sa nouvelle salle de traitement des billets de banque.
Ce projet de modernisation qui se concrétise aujourd'hui a été initié en 2006 pour le gouverneur de la Banque Centrale qui a inauguré cette nouvelle salle modernisée et équipée. Cette acquisition permet à la Banque des banques de mieux servir l'économie nationale. Les machines ont la capacité de compter et assembler plus d'une centaine de billets en une heure.
Le service de l'agriculture de Kanyama dans le Katanga a lancé mardi l'opération 3 mois de fermeture du marché agricole.
C'est une opération qui vise à préserver la contrée de la famine. Pendant 3 mois, aucun produit agricole, le maïs en l'occurrence, ne sera vendu sur le marché local afin de préserver la semence pour la saison culturelle prochaine et aussi rentabiliser la période des semis. L'inspecteur de service d'agriculture de Kanyama indique qu'une équipe de contrôleurs sera mise en place pour le suivi de cette mesure.
Et le maire de la ville de Lubumbashi qui a procédé mardi toujours au lancement de l'opération de perception de la taxe de stationnement des véhicules pour l'exercice 2013 sur toute l'étendue de sa juridiction.
Pour Jean-Oscar Sangunza, le taux de perception de la taxe est de 20 000 francs pour les nouvelles voitures et 40 000 francs pour les anciennes, tandis que pour les véhicules appartenant à des entreprises, la taxe varie entre 25 000 francs et 50 000 francs congolais. Cela dépend aussi de l'état de chaque véhicule. La perception de la taxe pour les véhicules Jeep va de 30 à 60 000 francs et ceux qui n'ont pas encore payé la taxe de stationnement pour l'exercice 2012 seront quant à eux frappés de pénalités, a prévenu le maire de Lubumbashi.
Et puis, cette grève de bouchers de Mudaka, Kavumu, Katana et Kabamba dans le territoire de Kabare.
Selon une source proche de la société civile dans ce milieu, depuis près d'une semaine, ces bouchers réclament une réduction des taxes et entités administratives décentralisées. Celle-ci venait d'être revue à la hausse par le service vétérinaire provincial. L'administrateur du territoire de Kabare indique qu'il est informé et qu'il a invité le président du comité de bouchers à se rendre compte de la situation et trouver une solution.
Terminons par jeudi où les vendeurs ambulants de produits orange ont refusé de travailler à Kinshasa.
Il s'agit des agents recrutés par la sous-traitance du cabinet Congo Recruitment. Ils déplorent le non-respect par leur employeur du contrat de travail, le non-respect qui se manifeste par des salaires irréguliers, la non-prise en compte des heures supplémentaires. Près de 400 agents vêtus des gilets et t-shirts orange étaient donc dans la rue.
Panorama économique, reportage.
Très difficile d'accéder à son salaire en cette période de fin de mois à Kinshasa. Plusieurs personnes s'en plaignent. Il faut faire beaucoup de tours avant de retirer son argent auprès des banques commerciales de la capitale. Depuis un certain temps, la plupart des distributeurs automatiques et agences de banque implantées dans la ville connaissent des problèmes de liquidité ou de connexion. Une situation qui est récurrente à la fin de chaque mois et très souvent les week-ends. Le constat est de notre reporter Michel Kifindangoy.
Le 25e jour de chaque mois, la plupart des sociétés commencent à payer leur personnel par voie bancaire. Les banques privées de la capitale sont donc très fréquentées par leurs abonnés, principalement pour retirer de l'argent. Malheureusement, il arrive qu'à cette période, bon nombre de ces banques ne servent pas leur clientèle. témoignage.
Pour récupérer l'argent, ça devient compliqué. Parfois, les distributeurs ne fonctionnent pas. On souffre vraiment. Tu peux avoir un enfant qui est tombé malade et ça demande d'urgence. Tu pars au guichet, il y a un seul guichet sur six qui marche. Vaut mieux garder l'argent soi-même à la maison au lieu d'aller mettre ça à la banque.
Cette situation pénalise plus les opérateurs économiques incapables de respecter certaines échéances. Cependant, ce problème lié aux caprices techniques n'est pas général, souligne le président de l'Association congolaise des banques et directeur général de la BIAC, Michel Losembe.
Vous savez, comme on a parfois, même sur les téléphones, trop de demandes en même temps, que ça crée des goulots d'étranglement. Vous savez que tous ces points de paiement électroniques passent par le réseau téléphonique. Donc il se peut qu'il y ait eu quelques difficultés techniques. Et bon, je peux imaginer qu'il y a un engouement particulier parce qu'à la fin du mois, tout le monde veut se précipiter en même temps.
En entendant, Michel Losembe rassure que la qualité du service s'améliorera avec l'arrivée de la fibre optique.
Retrouvons le secteur bancaire avant de terminer Panorama économique. Monsieur Flory, est-ce que vous êtes déjà arrivé à cette situation? Vous allez auprès de la banque retirer quelque chose sur votre compte et puis il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas ceci, il n'y a pas... Cela vous arrive aussi? Vous avez déjà vécu des gens, côtoyé des gens qui ont vécu cette situation?
Bon, disons, auprès des distributeurs automatiques, oui, soit il n'y a plus de liquidité, soit
le
distributeur est en panne, et donc ce sont des choses qui arrivent.
Mm-hmm.
Quand il faut approvisionner régulièrement le distributeur automatique, donc doit avoir un service qui vient vérifier s'il y a encore de liquidité, s'il n'y en a pas, qu'on puisse l'approvisionner. Donc c'est plutôt le suivi de chaque machine, et aussi c'est un travail qui doit s'organiser. Et il doit avoir un moyen de faire le contrôle ou faire le rapport et exécuter ce qu'on a pris comme option.
Et surtout quand ça arrive à la fin du mois, au moment où les gens entendent leur salaire et puis vous y allez, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de connexion, pas de liquidité.
Disons,
ça décourage encore davantage les gens à aller vers les banques, surtout avec la politique de la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État.
Comme je vous disais il y a peu de temps, si vous avez votre chéquier, donc il n'y aurait pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'aller retirer votre cash à la banque.
Guichet, oui.
Donc vous pouvez faire le chèque. Et ça, les gens oublient ces modes de paiement. Donc on devrait accepter de plus en plus l'utilisation de chèques et aussi de ces cartes bancaires où on peut de cartes électroniques. Mais parfois les hommes préfèrent avoir leur argent cash. Donc on a encore les anciennes manières dans nos esprits. Et souvent certains fournisseurs n'acceptent pas de chèques, ils aimeraient avoir de l'argent cash, d'où ça crée un peu de problème. Mais si déjà votre argent est dans votre compte, si vous avez un carnet de chèques, vous pouvez faire le chèque. Donc que ça soit un changement en fait de mentalité dans le mode de paiement, qu'on oublie un peu le cash.
Voilà, nous allons terminer Panorama économique. Monsieur Flory, mais vous nous l'avez dit au début de l'émission, vous êtes le chef de projet de la réduction des effets dus à la dégradation et à la déforestation. Parlez-nous-en un peu en quelques lignes avant de boucler cette émission.
En fait, nous avons un projet dans le Bandundu qui met l'accent sur les réponses à donner au réchauffement climatique. Donc, le processus RED+ est une des réponses au changement climatique.
Mm-hmm.
Et nous étions en train justement de discuter sur la manière de faire une approche juridictionnelle à grande échelle et plus précisément dans les districts de Plateau et de Maïndombé.
Mmh.
Et là, l'idée, c'est que d'une manière consensuelle, qu'on tablerait sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre dans la zone et nous vendrions, en fait, nous introduisons les gouvernements, parce que nous appuyons le gouvernement dans cette démarche, le gouvernement introduirait une note d'idée de programme de réduction des émissions au sein du fonds de carbone de la Banque mondiale. Et là, ils achèteraient ces émissions à un prix assez élevé et qui rapporterait suffisamment d'argent à cette zone-là, donc qui améliorerait les conditions de vie des communautés locales et peuples autochtones, ainsi que ça apporterait de l'argent frais au gouvernement.
Nous savons que dans ce programme de lutte contre le réchauffement climatique, on demande souvent aux populations villageoises de changer de comportement, de développer autrement leurs activités économiques. Est-ce que dans le cadre de ce projet-là, vous avez une stratégie mise en place? Parce qu'on sait qu'au village, dans le plateau, dans le Bandundu, les gens sont habitués à faire le déboisement, couper du bois, en faire de la braise pour trouver de quoi lier les deux bouts du mois. Avec le programme RED+, je ne pense pas que vous allez encourager le déboisement, mais à la place, comment les autochtones pourront développer autrement leurs activités économiques de survie?
Ok, la première des choses, c'est diminuer la pression sur la forêt primaire, donc gérer durablement sa forêt et ses ressources naturelles. Donc là, on encourage la cartographie participative, où on identifie la couverture forestière du terroir, et aussi comment les communautés utilisent leurs terres. Donc on a des cartes et ça leur permet maintenant d'aller vers la rédaction d'un plan simple de gestion, et ces plans simples de gestion leur permettent de prendre des options pour avoir un développement beaucoup plus concerté au niveau de la communauté. Et par la suite, on installe les mécanismes de gouvernance locale qui permettent à ce qu'on arrive à avoir des comités locaux de développement et de conservation qui, à leur tour, conduisent l'activité vers une démarche beaucoup plus concertée. Et dès là, on propose des activités génératrices de revenus, des activités alternatives telles que l'agriculture durable, la pêche durable, aussi l'utilisation, la rentabilisation de produits forestiers non ligneux, et aussi l'ouverture au marché, l'accès au marché, c'est-à-dire des communautés utilisent par exemple des semences améliorées et des boutures saines qui permettent d'avoir une meilleure récolte et une meilleure production, et c'est là on les amène vers des marchés qui sont beaucoup plus prometteurs, que les villages ne soient plus un marché mais que les villages aillent vers des grands marchés. Et aussi, on met des programmes de reboisement et de foyers améliorés pour diminuer la quantité de bois de chauffe qu'on pourrait utiliser, en fait, l'énergie bois. Donc, on gère l'énergie bois, on produit soi-même son bois. Donc, on fait des plantations des arbres à croissance rapide, comme des acacias, qui, après un certain temps, peuvent être déjà exploités. Et les arbres arrivent à maturité après 4-5 ans et on peut déjà commencer à exploiter les années suivantes. Donc là, on fait aussi des activités agricoles, des activités d'apiculture qui augmentent les revenus du paysan et qui triplent son revenu par rapport à la méthode habituelle. Donc c'est une opportunité assez importante qu'on donne. Et maintenant, lorsque les émissions sont réduites par rapport à cela, et on peut vendre ces émissions auprès, dans les cas qui nous concernent avec le pays, c'est auprès du FCPF, qui est le fonds carbone du partenariat. Oui. Donc ça permet à ce que eux puissent les acheter et donner ces émissions-là aux pays qui participent à cette initiative. Donc ils les achètent à un taux beaucoup plus élevé par rapport au taux du marché volontaire, par exemple.
Nous avons parlé de votre atelier cette semaine, l'atelier organisé avec le ministère de l'Environnement. C'était pour qu'au terme de cet atelier, la RDC puisse soumettre sa candidature, disons, à ce fonds de carbone de la Banque mondiale. Qu'est-ce qu'on peut retenir des grandes recommandations que cet atelier de Kinshasa a pu formuler?
Bon, cet atelier de Kinshasa a mis sur pied une équipe de travail qui va continuer à fignoler la note d'idée du programme de réduction des émissions. Et jusqu'à mardi et le mercredi, ce document sera rendu au ministère qui va le déposer à la réunion qui aura lieu la semaine prochaine à Washington. Et parmi les recommandations, nous nous sommes mis d'accord sur la zone d'intervention. Donc, ce sera les districts de Plateau et de Maïndombé dans sa forme actuelle. Donc, 12 millions d'hectares et 9 millions d'hectares de forêt. Donc, et puis en plus, qu'est-ce qu'on a demandé? Qu'effectivement, le pays sera le propriétaire du carbone et que les gens vont travailler, toutes les parties prenantes vont travailler ensemble et que on va continuer à aller vers cette approche juridictionnelle qui est beaucoup plus importante pour le pays et surtout pour les communautés qui y vivent.
Merci beaucoup Monsieur Flori Botamba. C'est ainsi que s'achève Panorama économique sur Radio Okapi. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois.
C'est moi qui vous remercie.
Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Votre émission est toute la semaine sur www.radiookapi.net et vos suggestions, elles sont les bienvenues à sco@radiookapi.net. Le prochain rendez-vous avec l'actualité économique sur votre radio, ce sera déjà lundi 18h15, heure de Kinshasa. Très bonne fin de semaine à tous et très bonne suite de programmes sur votre radio.